Bah, il y avait des bonnes basses, ça résonnait bien et se dire que t'as tes propres basses qui résonnent au Hellfest, ça c'est cool. Ça c'est bien bien cool.
Chaque année depuis 2006, la petite ville de Clisson en Loire-Atlantique se transforme le temps d'un week-end en capitale du rock'n'roll. Elle accueille la mecque du métal, le Hellfest. En 2022, après 2 ans d'arrêt liés à la pandémie de Covid-19, les portes de l'enfer se sont enfin rouvertes. Comme pour se venger du virus, et aussi pour rattraper le temps et l'argent perdu, Hellfest Productions a imaginé une édition exceptionnelle, qu'on appelle désormais l'édition du siècle. Faire 2 Hellfest en 1, 7 jours de concert répartis sur 2 week-ends. Avec Miguel, cette édition du siècle, on a décidé de la vivre, mais de l'intérieur, avec celles et ceux qui font le festival, toutes les petites mains qui travaillent, salariés et bénévoles, pour comprendre comment fonctionne cette machine infernale. Dans l'épisode précédent, j'ai annoncé qu'il n'y aurait pas de grosses stars dans ce podcast. Alors, on va commencer par faire une exception, parce que les stars dont on va parler maintenant sont les stars du futur. Le groupe s'appelle Shade and Dust. Ils sont originaires du vignoble nantais et ils ont gagné le tremplin Voice of Hell. C'est un peu comme The Voice, mais version Hellfest.
Et donc, première phase, ils sélectionnaient les 10 premiers groupes avec le plus de votes. Donc, on était dedans, première surprise, première satisfaction. Donc on s'est dit, bon, ça va sûrement s'arrêter là et puis terminer, ça sera déjà très bien. Et puis, bah, grosse surprise, pris pour jouer sur la Altar, quoi. Donc ça c'était en juin l'année dernière. On nous aurait dit il y a un an en mai vous allez jouer Hellfest l'année prochaine. Je pense que personne n'aurait misé un copec dessus.
C'est presque un an après. Regrette. Nous on n'est pas redescendu encore. Hein.
Oui oui voilà c'est ça. Ouais. C'est ça. Je pense qu'on réalise toujours pas quoi.
Et pourtant ils y sont presque. Ils sont dans les loges 1 heure avant de monter sur scène.
Alors la scène, on se la représente très bien depuis le pit, depuis la fosse. Hein. Parce que du coup, on y a été quand même pas mal de fois. On y a campé, je pense même que moi, je m'y suis allongé, j'y ai dormi même. J'ai écouté des groupes posés, j'ai écouté des groupes en bougeant, j'étais bien campé devant. Ou voilà. Donc là, il n'y a pas de problème de visualisation de ce côté-là. En plus de ça, l'altar, alors pour la plupart d'entre nous, c'est la scène de référence. En plus, il y a un truc de symbolique, d'hôtel sacrificiel, machin. On a vu passer tous les groupes qu'on adore, qui sont des groupes qui nous ont influencés. Et il y avait un truc, quelque part, quand on les voit, qui fait un peu insaisissable, tout ça. Et puis on se regardait en se disant, mais c'est un rêve de gamin, mais un jour, on y sera, quoi.
Au Hellfest, il y a plusieurs scènes. Les 2 scènes principales, les main stage, sur lesquelles jouent les têtes d'affiche, et puis il y a 4 autres scènes consacrées à différents courants du métal. Celle dont parle Edouard, sur laquelle ils vont jouer, c'est la Altar, la scène death metal. Et c'est pas une petite scène. Elle fait quand même 15 mètres de long, elle est installée sous une immense tente prévue pour 10 000 personnes, et quand on est un petit groupe plutôt habitué à jouer sur des petites scènes, ça peut être assez impressionnant.
Tout simplement la gestion du stress, c'est parce ça, qu'on reste, certes, un petit groupe, mais on n'a pas l'habitude de faire beaucoup de scènes de base. Forcément, à chaque fois qu'on fait un concert, ça fait en général très longtemps qu'on n'en a pas fait. Il se passe un certain temps. À chaque fois, la gestion du stress, ça se perd un petit peu. Quand on perd l'habitude de faire ça, les émotions sont plus difficiles à gérer. La réaction du public aussi, hein, c'est bête, mais des fois, ça peut miner un petit peu le moral quand il y a le public qui n'est pas trop présent. Mais voilà quoi, après ouais. Ça va se faire. Hein.
Et une des préparations, c'est aussi de se préparer à en profiter quelque part, parce qu'on va vivre une demi-heure très intense, dont on va probablement se souvenir au moins 2-3 semaines. Donc c'est important de ne pas louper ce coche-là, ne serait-ce que pour ce qu'on va y vivre, en fait, tout simplement.
On laisse Edouard, David, Climène, Colia et Alexis gérer leur stress. On les retrouvera juste avant de monter sur scène, parce que maintenant, on a rendez-vous avec Sarah, toujours dans les loges. C'est la responsable de l'accueil artiste.
Moi, mon travail, ça va être en majorité de répondre à mon prénom 300 fois par jour. En majorité des questions toutes faciles à répondre, mais C'est où est-ce que je peux vendre mon merch, où est la scène, où sont les toilettes. Et quand même, la plus souvent posée, c'est est-ce que je peux avoir plus de bière. Évidemment. Moi, ma spécificité quand même, c'est que je ne m'occupe pas des quatre grosses têtes d'affiche. Il y a vraiment une équipe qui est dédiée. Donc les demandes sont hyper particulières.
Il y a une hiérarchie de la loge en fonction de l'importance du groupe. Il y a donc deux espaces distincts. L'un pour les Metallica, Scorpion et autres Guns N' Roses, et un autre avec le reste des groupes. Cet espace-là, dont s'occupe Sarah, ressemble à la rue d'un village bordé par des algécos blancs au lieu des maisons. Et tout au bout de la rue, il y a un grand escalier qui monte vers l'espace buffet et restauration.
La tente noire que vous voyez à l'entrée, c'est ce qu'on appelle l'accueil artiste. Donc c'est là qu'ils récupèrent tout ce qui est passe, tickets pour manger, enfin, les infos, tout ça. Et là, il y a une première équipe qui s'occupe de leur montrer dans quelle loge ils sont, etc., etc. Et ensuite, c'est mon équipe qui prend le relais.
Chaque groupe a son algéco avec son nom marqué sur la porte. Certains ont droit à des doubles loges, toujours en fonction de l'importance du groupe. Dans cette rue, on y trouve aussi le bureau de Sarah, les toilettes, les douches.
À l'entrée, il y a une masseuse, enfin plutôt des ostéos quand même. Ils sont trois ostéos et il y a aussi une équipe pour les serviettes, parce que ça c'est pareil, c'est tellement gros qu'on ne peut plus le faire nous-mêmes. Il y a vraiment une équipe attitrée. Nous, on leur fait un listing au début en fonction de ce que les groupes nous ont demandé. Donc, c'est des quantités astronomiques, hein, généralement. Enfin, les gros groupes.
Par exemple.
C'est un peu ridicule. Bah, on peut avoir un groupe qui peut demander plus d'une centaine de serviettes, par exemple. Soit on diminue, soit on se demande ce qu'ils font avec. Mais bon, en fonction, on fournit ou pas. Et heureusement, on a une entreprise extérieure qui les lave, puisqu'on ne pourrait pas s'occuper de ça. Mais les premières années, on le faisait, c'était horrible. Voilà, donc on le fait plus. C'est très bien.
Et elles sont siglées Hellfest, les serviettes ?
Non.
Non, c'est vraiment des serviettes.
Vous ne pouvez pas vous les faire voler, quoi.
Oui, alors ça arrive quand même. Mais parce qu'il y a une petite mode depuis quelques années pour les serviettes noires. Donc, alors ça, les fournisseurs de serviettes le savent, il est le plus cher, etc., etc.
Et elles sont noires, les serviettes ?
Bah, on accepte de le faire pour les gros groupes. Parce que c'est quand même vachement plus cher. Et enfin, on parle de couleur de serviettes. Je pense qu'il faut revenir à des choses un peu plus essentielles. Donc moi, j'ai aucun mal à dire, bah non, elles seront blanches.
Le travail de Sarah, c'est pas mal d'anticipation et beaucoup de négociations. Quand un groupe est programmé, il envoie à l'organisateur la liste de ce dont il va avoir besoin pour sa prestation. On appelle ça un rider. Il y a un premier rider qui part vers les équipes techniques avec les indications et le matériel nécessaire pour le concert. Et il y en a un autre qui atterrit chez Sarah. On l'appelle l'Hospitality Rider. Et c'est la liste de ce que les artistes aimeraient bien trouver à leur arrivée dans les loges.
Et là, c'est, je sais pas, 4 Jack Daniels, des bières locales. Enfin, ça peut aller, il y a tout et n'importe quoi. Voilà. Après, c'est à nous de décider sur ce quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Voilà.
T'as déjà vu passer des demandes un peu improbables ?
Oh bah oui, plein. On a eu une demande de 3 litres de sang de porc pour s'en badigeonner, j'ai envie de vous dire. Mais alors voilà, mais j'aime bien en parler de cet exemple parce qu'effectivement, quand on lit, on se dit oula, sauf qu'en fait, donc on appelle le boucher de cuisson qui en plus a été ravi de les fournir. Et en fait, au moment où l'artiste vient le chercher, j'ai affaire à un homme charmant, ultra poli, qui était hyper content qu'on ait accédé à sa demande. Et pour moi, c'est ça le métal. C'est cette espèce de demande un peu, qui sort de l'accoutumée, mais enrobée de bienveillance et de respect. Donc, moi, tant qu'on a le bon ton, je peux à peu près fournir tout ce qui est demandé, tout ce qui est légal, bien évidemment. je le précise parce que c'est important.
Le travail de Sarah, c'est aussi beaucoup d'organisation. Au Hellfest, comme dans tous les très gros festivals, il y a moins de loges que d'artistes. Dans l'espace dont s'occupe Sarah, avec 50 groupes programmés chaque jour, ça serait compliqué de construire et de gérer 50 loges. Donc c'est un jeu de chaises musicales, c'est le Airbnb de la loge.
Donc en fait, il y a une partie planning on définit combien de temps ce groupe-là va rester dans cette loge-là, et après il va devoir partir parce qu'on doit mettre quelqu'un d'autre, etc., etc. C'est un gros casse-tête.
Et tu fais quoi? T'as un tableur Excel?
Oui.
Comment t'organises?
Oui, oui. Et puis en plus, il faut faire en fonction des get-in. Donc les get-in, c'est les heures d'arrivée. Puis en fait, ils peuvent avoir un get-in, ce qu'on appelle une arrivée technique. C'est-à-dire que nous, on leur dit qu'il faut qu'ils soient à cette heure-là, mais eux, en fait, en fonction du trajet où ils sont la veille, ils vont arriver plus tôt. Donc ça généralement, ça donne toujours des bonnes surprises sur place. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas du tout à l'heure à laquelle on leur a demandé de venir. Mais moi, j'ai pas de loge, etc. Bon, bref, mais tout finit toujours par se goupiller. Donc il y a effectivement cette partie-là qui est assez prenante. Ensuite, il y a toute une partie tout simplement de commande de nourriture qui est énorme. Parce qu'en fait, comme nous avons énormément de groupes, j'ai mis en place un système de buffet qui est plus écologique en plus. C'est-à-dire que plutôt que de mettre des produits dans chaque loge, et en plus comme on a des loges qui tournent, enfin, ça serait l'enfer. Et on a un grand buffet où en fait ils peuvent se rendre... complètement dingue avec le fromage, ils font des mélanges que vous ne pouvez pas soupçonner.
C'est-à-dire?
Ben, ils peuvent mettre du beurre, du sucré, du chocolat, faire du pain, et mettre du fromage, enfin, c'est très étrange, ils font beaucoup de choses avec le fromage. Beaucoup de sucré salé et des quantités astronomiques. On voit que le fromage, voilà, ça est bien labellisé français.
Le site du Hellfest, c'est 35 hectares, si on compte la zone publique et les zones techniques. Pour cette raison, on s'y déplace en voiturette de golf. C'est pas très rock, mais c'est pratique. Et ça nous permet de retrouver les Shade & Dust en backstage, quelques minutes avant de monter sur scène.
Salut! Ça va bien?
Et toi, comment ça va?
Ça va, on est content là, on est bien bien dans les temps, donc... Non, franchement, moi je me sens bien détendu quoi. Donc,
Ça va être le feu ça.
Ouais. Oh putain, il y a tous les copains. Ça va ?
Faut imaginer l'arrière des scènes. Alors déjà, ouais, c'est beaucoup moins glamour que devant. C'est un monde d'Algeco blanc, de vannes, de camions et de poussière.
On va par ici après ?
Ouais, hein, carrément. Avec plaisir.
Et c'est une fourmilière. Il y a plein de gens en train de déplacer des caisses, des amplis, des guitares. Ce qu'on entend là. Ce sont les réglages de la batterie du groupe qui jouera, mais après Shade & Dust. Chaque jour, entre 8 et 9 groupes se succèdent sur chacune des 6 scènes du festival. Donc, faut bien anticiper les changements de plateau. Et ceux qui s'en chargent, ce sont les backliners. Comme Elodie, qui s'occupe des main stage.
Il faut savoir que pendant que le commun des mortels regarde un concert sur la 2, nous, on installe ce qui va se passer sur la main 1 après. La plupart en fait, des groupes, des gros groupes, viennent maintenant sans équipe road, ils viennent juste avec leur chef technicien et du coup c'est aux équipes locales de tout décharger, donc ils se débrouillent pour que ce soit pratique. Enfin, si tu prends Deep Purple, moi j'avais adoré faire Deep Purple parce qu'il avait numéroté les caisses de 1 à 40 je crois, et donc il fallait les sortir dans l'ordre et les rentrer dans l'ordre, et pour eux ça correspond vraiment à quelque chose, tu vois. Genre la caisse 10 ça va être les câbles, après ça va être autre chose, et t'as vraiment une vraie organisation.
Le boulot d'Elodie, c'est de vider des camions, d'installer le matériel sur scène et de le ranger après le spectacle.
On met le maximum de choses sur roulette pour que ça tourne vraiment très très vite. Là, cette année, les prods sont venus avec des trucs hyper lourds. Du coup, on ne pouvait pas faire vraiment comme on voulait. Mais tu vois, sur l'édition de 2019, en fait, c'était assez incroyable. Parce que tu avais un groupe sur scène, un groupe qui était en sortie de scène, donc avec les pratos qu'on vidait, pendant que tu avais un groupe en attente derrière, donc littéralement derrière le groupe qui est en train de jouer, il y en a un autre qui est caché derrière le rideau. Donc on avait toujours un groupe en install, un groupe en attente, un groupe qui joue et un groupe qui sort. Et donc on tournait sur quatre équipes en même temps qui installaient et désinstallaient et aidaient les musiciens en fait à bouger. Et les scènes fonctionnent normalement toutes comme ça parce que c'est le fonctionnement le plus facile, on a l'espace suffisant derrière.
Pour les Shade & Dust, c'est beaucoup moins compliqué parce que leur matos tient dans une remorque. En revanche, les groupes qui jouent sur les main stage, comme Scorpion ou Metallica, eux, ils arrivent avec plusieurs camions remplis de matériel.
Plus le groupe il est gros, plus le matos il est gros. Les Judas Priest, en fait, eux, ils sont venus avec plusieurs semi-remorques où là, toutes les structures que tu as pu voir sur scène, elles sont déjà montées dans le camion. Et genre, c'est un peu comme un kit de mécano, tu vois, ton kit de Lego. Et tu sors les morceaux du kit et tu les assembles sur scène. Et pareil pour Airborne, enfin tu vois, toutes ces avancées de scène et ces structures que tu vois sur scène, elles sont démontées dans les camions. T'as aussi les caisses dans les camions qui sont pour ce qu'on appelle le backstage, donc les loges et l'arrière en fait. Et celle-là par contre, tu vois, ça va être des armoires roulantes. Donc t'imagines un peu l'armoire que t'as chez toi façon Ikea là, mais avec des roulettes. Et donc là par contre, l'armoire elle peut faire jusqu'à 2 mètres 10 de haut. Ça c'est comme chez toi, tu vois, tu l'ouvres, il y a ton pantalon, il y a ton petit t-shirt. Donc les caisses sont vraiment des volumes très très différents et des poids surtout très très différents. Et c'est vraiment pas forcément la plus grosse qui est la plus lourde. Du coup, faut faire gaffe, tu vois, quand t'es au cul du camion et que ça sort, faut faire très très gaffe à la caisse que t'as choisie, parce que si c'est les cymbales, t'as de la chance. Si le mec a mis tous ses pieds de batterie dans la même petite caisse, parce que tu peux les démonter, bah t'es content qu'il y ait un copain avec toi pour porter la caisse quand même, parce que des fois, il n'y a pas de roulette.
Quand il n'y a pas de roulette, comme les batteries par exemple, on les installe sur ce qu'on appelle des praticables.
Donc les praticables, les pratos, il faut imaginer qu'il y a 3 hauteurs différentes sur ces praticables. Faut que t'imagines la table de chez toi, ou la table où tu manges, avec des pieds réglables. Et en fonction de la demande du groupe qu'il a fait en amont avec le régisseur, et ben on te prépare le matos qu'il te faut. Donc si tu me dis qu'il te faut un 3 mètres par 2 mètres, je te crée un 3 mètres par 2 mètres. Si tu me dis qu'il te faut une hauteur 40, et ben on te met à 40. Si le groupe d'après te dit qu'il veut la même chose mais en 60, il faut que je démonte mes pieds et que je le remonte. Mais nous, le matin, quand on arrive, il y a une liste avec tous les praticables à construire par groupe et on sait déjà ce qu'on va mettre dessus. Et les pratos, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais je préfère pousser des caisses. C'est trop rigolo. En fait, sur les mains, au-delà du quai, t'as une espèce de rampe qui fait un peu comme le toboggan des enfants, tu vois, avec la petite vague au milieu. Et c'est trop rigolo de pousser ta caisse en haut, d'arriver au milieu et puis de remonter. Puis c'est pareil de le descendre. Enfin, ouais, bah, on s'amuse comme on peut, hein, mais c'est vachement rigolo.
C'est la fin du concert des Shade and Dust. On les retrouve essoufflés, couverts de transpiration, fatigués, mais ravis.
Je me sens hyper bien. Je suis trop heureux d'être là et je suis pressé d'aller voir ma famille, mes amis.
Il y avait des bonnes basses, ça résonnait bien. Et de se dire que t'as tes propres basses qui résonnent au Hellfest, ça c'est cool. Ça c'est bien bien cool. On avait un son vraiment génial. On avait le track avant de venir, forcément, parce que Hellfest, parce que concert, parce que du monde. Enfin ouais, en plus, vous avez vu comme nous, enfin l'altar elle était remplie du point de vue de la scène. Enfin moi, c'est des images qui vont rester toute ma vie.
Et à vrai dire, même avec 3 personnes devant, on n'aurait pas fait moins quoi qu'il arrive. Ça aurait été à fond quoi qu'il arrive.
Alors moi, j'ai été peut-être un peu plus tracard que les autres. J'ai commencé avec des tremblements incroyables. J'arrivais pas à m'en défaire sur le début. Bon, le show était là quand même, la musique était là, les copains étaient là, l'altar était rempli, il y avait du gros son en façade, c'était trop cool.
Mais quelqu'un dans cette baraque ?
Les Shade and Dust sont heureux, et nous aussi. Parce qu'avec Miguel, on a décidé de loger chez Jacqueline le temps du festival. Elle habite dans une jolie maison de ville, dans le centre de Clisson. Mais attention, dormir chez elle, c'est aussi partager la vie de 7 colocataires. Des festivaliers qu'elle connaît bien, parce qu'elle les loge depuis des années.
Ça va, Jérémy ?
Ça va bien.
Bon, voilà. Bah, bienvenue chez moi.
Letty et Nico sont déjà installés, mais ce soir, c'est l'arrivée du Baron et du 2-2. Ce sont les retrouvailles post-Covid.
C'est joli, hein, là. C'est la première fois que tu viens. Mademoiselle ?
Ah, super !
Oh, bah, tu parles !
Ah, bah, dis donc !
Madame ?
Bonjour.
Ça va ?
Oh, trop bien !
Hein ?
Bah dis donc, il est plus tôt que tu m'avais dit. Génial. Oh là là,
oui.
Quel bonheur.
3 ans.
Ah ouais, dis donc, hein.
Mais ça passe vite.
Hein. Oh bon, non, ah, ouais, non, tiens. Non, non. C'est pas vrai.
Bah, non, on est déjà là, tu vois.
Eh, c'est génial.
Entre Jacqueline et ses festivaliers, c'est une grande histoire d'amitié. Intergénérationnelle en plus. Elle, elle en a 75. Deux, 60. Ensuite, il y a Baron, Letty, Alex et Fabrice qui ont entre 39 et 47. Et Nico, le petit jeune de la team, qui en a que 34.
Bon, Jérémy, tu restes là.
Je reste là.
Voilà, il y a un truc qui n'apparaissait pas dans le podcast de l'année dernière. C'est que tu vois, il est 23h30, on rentre. Jacqueline était toute seule, ses amis sont partis. Elle écoute du Gojira. C'est incroyable.
Tu vois, hein.
C'est incroyable. Comment tu veux qu'on soit pas bien ici?
J'aime tellement Gojira, c'est vrai, je trouve que surtout le chant, parce que ça me prend au trip, quoi.
Il y avait une navette, j'étais même pas inscrit. Je lui ai donné 15 balles, il m'a dit déjà en bas. C'est ton travaux, il peut pas sortir.
Bien,
Remu, un copain, connaissait, je sais pas par quel biais, Jacqueline. Donc voilà, on s'est pointé là, il était en plein travaux. Mais moi, le fait d'avoir juste un truc pour dormir, une douche, un machin, c'était nickel, quoi. Et nous, dans le groupe, on n'était que deux à avoir plus de 50 balais. Enfin, ouais, on avait 54, 55. Donc, elle était contente d'avoir des gens un peu plus anciens. Nous, on était moins pressés. Les gamins, quand ils se lèvent le matin, ils partent. Ils vont tout de suite sur le festival. Donc voilà, ça a matché tout de suite parce qu'on était plus tranquille. Donc voilà, on restait. Elle était contente qu'on bouffait ensemble. On s'allait se balader. Toi, c'est... Elle, elle voyait aussi les choses comme ça. Pas uniquement du côté mercantile où tu loupes. D'ailleurs, elle loupe rien du tout. Hein. Tu payes pas beaucoup. Hein. Elle fait même penser à pour le fric parce que tu payes un pédale, quoi.
Et de deux, t'as soif ?
Oui.
Bon, alors.
Évidemment, j'ai soif.
Mais, bah, tu veux un verre d'eau ?
Oui. Arrête tes conneries.
J'ai juste un verre de rosé pour toi.
Ah merde.
Allez, viens.
Si c'est Justin, merde, ça va pas. Non, je rigole.
Ah, mais demain, je vais chercher un cubi.
Oui, non, mais j'irai en acheter, moi. C'est pas
grave. Ah, bah, sûrement, oui.
Arrête. Et par contre, faudrait que je recharge mon bigot. Et non, t'as une machine d'iPhone ou quoi, non ?
Après, il y a l'amitié qui se mêle. Alors tu dis après, tu dis je vais retourner au Hellfest, mais tu vas au Hellfest un peu pour elle aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce qui fait la différence.
C'est une sacrée rencontre.
Oui, c'est bien, ouais, c'est bien. Les rencontres, c'est bien. Avec des gens intelligents, ouais, sympas, ouais, c'est bien. Ouais. Ah, ouais. On recherche ça, de toute façon. Enfin, moi, en tout cas, oui.
Il est l'heure d'aller se coucher parce que demain on se lève tôt. On va partir dès 7h du matin, retrouver les équipes techniques du festival qui assurent la gestion et l'entretien du site. Si vous voulez faire de la voiturette de golf dans les coulisses du Hellfest, rendez-vous dans le prochain épisode.